20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons bioéthique et transhumanisme dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Plus d'un million d'années et toujours confiné, aurait pu chanter Nino Ferrer. Nous voilà une nouvelle fois chacun chez soi pour présenter votre rendez-vous scientifique mensuel. Alors vous vous dites peut-être que ça commence à radoter l'atome de savoir, car on a déjà parlé de la révision de la loi bioéthique au mois d'octobre. Alors certes, mais 40 minutes pour parler de bioéthique en 2020, c'est un peu court. Alors ce soir, nous allons parler GPA, manipulation du génome humain et transhumanisme. Et pour en discuter, nous recevons Jennifer Merchant. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante chercheuse à l'université Paris 2 Panthéon Assas, spécialiste des enjeux sociopolitiques de la bioéthique. Et Jacques Testard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche honoraire à l'INSERM et auteur de l'ouvrage « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes » aux éditions du Seuil. Vous êtes notamment connu pour avoir permis la naissance d'Amandine en 1982. C'était le premier bébé issu d'une fécondation in vitro. Tout à l'heure, c'est Guillaume qui nous présentera l'actu scientifique et en fin d'émission, c'est Jade qui nous expliquera le fonctionnement des réseaux mobiles comme la 4G ou même la 5G. Allez, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, l'atome de savoir, ça commence sur les chapeaux de roue.
Des parents exigeants qui veulent des bébés à la carte sans se soucier des conséquences sur les mères porteuses, Jeffrey Steinberg les connaît bien. Il a même construit une clinique pour eux.
Ah, ce sont des embryons congelés et des ovocytes.
Et tant qu'ils payent, ils peuvent tout avoir ou presque.
Voilà, faites votre shopping. Nous avons 10 catalogues comme celui-là. Mais je dois quand même être sûr que leurs attentes soient réalistes. Certains veulent des enfants grands, athlétiques, avec des yeux verts et qui jouent au foot américain. C'est impossible.
La clinique de Jeffrey ne désemplit pas et il en a 3 autres en construction.
Quand nous avons annoncé que nous étions en mesure de déterminer la couleur des yeux et des cheveux de l'enfant, ça a été une tempête médiatique. Le monde entier est devenu fou avec cette histoire. Mais un jour ou l'autre, les parents exigeront des enfants grands. Et le jour où nous serons en mesure d'isoler le gène de la taille, nous pourrons le faire. Devons-nous le faire? Je ne sais pas. C'est à la société de décider.
Un extrait de l'effet papillon diffusé sur Canal+ le 18 septembre 2011. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel sur la révision de la loi bioéthique en France, vous pouvez réécouter notre émission du mois d'octobre sur Spotify ou radiocampusparis.org/l'atome de savoir, tout attaché sans apostrophe. Nos invités, Jennifer Merchant, Jacques Testard, merci d'être avec nous ce soir sur Radio Campus Paris. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au début, pour légitimer l'ouverture de la PMA seulement aux couples hétérosexuels, on se basait sur une égalité biologique entre les couples. Un couple hétérosexuel peut naturellement avoir un enfant et la PMA doit imiter la nature. Une première inégalité se dégage alors entre les couples hétérosexuels et homosexuels puisque certains peuvent accéder à la PMA et pas les autres. Ensuite, pour ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, on se base sur une autre égalité, l'égalité entre toutes les femmes d'avoir le droit et la possibilité d'avoir son propre enfant. Mais à ce stade, ne crée-t-on pas une nouvelle inégalité avec les hommes seuls et les couples d'hommes qui ne peuvent pas bénéficier de ce droit et de cette possibilité. Alors, que pensez-vous de la situation actuelle en France, Jennifer Merchant ?
Ben, je pense effectivement que les associations de hommes, couples de même sexe ont une assise sur cet argument qui consiste à dire si les femmes en couple lesbien et les femmes seules peuvent avoir accès à la PMA, il n'y a pas de raison juridique qui nous empêche, nous, d'avoir donc accès à la procréation médicalement assistée via une femme porteuse. Donc juridiquement, ça va être leur prochain combat, je pense. Et je pense qu'ils ont un argument qui est fondé juridiquement et qui éventuellement viendra à une régulation, une législation de l'accès à la GPA en France, ce que je souhaite personnellement.
Jacques Testard.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Ce raisonnement qui était déjà dans la question que vous avez introduit, c'est un raisonnement qui enchaîne les sophismes. Et c'est bien effectivement celui des hommes qui revendiquent la GPA. Mais l'AMP n'a pas été inventée pour imiter la nature. Elle a été inventée pour permettre à des couples infertiles d'avoir un bébé. Donc c'est pas comme ça que vous posez la question. L'AMP n'a pas été inventée pour des gens qui n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont normalement fertiles. De même que la greffe d'organes n'est pas faite pour des gens qui voudraient profiter d'un organe supplémentaire, ce qui est le rêve des transhumanistes. Alors, le parallèle n'est pas entre hétéro et homo, mais entre fertile et infertile. Hors de l'homosexualité, il existe d'ailleurs des situations où la grossesse n'est pas possible, par exemple quand l'utérus n'est pas fonctionnel. Et ces personnes n'ont pas accès à l'assistance à la procréation, sans oublier les femmes ménopausées qui n'ont pas accès non plus. Avec le raisonnement égalitariste que vous présentez, une femme de 70 ans devrait avoir accès à la maternité puisqu'un homme du même âge peut être père. Ce sont des raisonnements absurdes qui annulent toute prétention bioéthique. Bon, bien sûr qu'un couple de femmes recherche la grossesse devrait plutôt les amener à rechercher un partenaire masculin parce que la technique de l'insémination artificielle est à la portée de tout le monde. Et cette démarche qui est largement pratiquée tant que la société ne prend pas en charge l'AMP pour tous, elle démontrerait leur responsabilité à assumer la maternité en même temps qu'elle éviterait la mise en marché des gamètes pour cause de pénurie. Ce n'est pas le cas, bien sûr, pour la GPA, qui nécessite davantage que l'insémination artificielle, qui nécessite l'acte réellement biomédical de fécondation in vitro, et qui nécessite aussi l'instrumentalisation, il faut quand même le rappeler, de un ou plus souvent deux corps féminins. Le premier pour la vente d'ovules, pour faire la FIV, le second pour la location d'utérus pour porter l'enfant. Ce qui s'oppose à l'indisponibilité du corps qui est inscrite dans le code civil. De plus, il n'y a pas de droit à l'enfant qui serait alors seulement un objet désirable. Cette conception du droit à l'enfant entraîne d'ailleurs l'exigence fréquente des demandeurs pour obtenir un enfant qui ne soit pas un enfant du hasard, mais un enfant qui leur convienne avec le choix de traits génétiques, le choix du sexe, le refus des handicaps à la naissance. La GPA n'est pas un droit du masculin. Pour moi, elle est une injure au féminin.
Je voudrais répondre à M. Testard. D'abord, je pense que vous évoquez, M. Testard, une situation qui n'existe pas en France. Il n'y a pas de vente de gamètes. La GPA est interdite. Nous avons justement en France la possibilité d'éviter ce que vous décrivez qui se passe aux États-Unis, je suis d'accord avec vous. Ensuite, je voudrais revenir sur l'instrumentalisation des corps des femmes. Je suis moi-même ayant fait beaucoup de recherches sur le terrain aux États-Unis sur les mères porteuses ou les femmes porteuses. Nous avons des statistiques très claires qui viennent du CDC qui montrent que dans au moins 10 États sur 50, je suis d'accord avec vous, mais au moins dans 10 États, c'est très bien régulé. On ne fait pas appel à des femmes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale et que ces femmes choisissent d'être femmes porteuses parce que ça leur apporte un sens à leur vie. Alors, je ne vais pas maintenant revenir sur le terrain qui a été effectué par moi-même et par une de mes doctorantes, mais je pense que le féminisme, c'est aussi le droit de décider pour son corps. Et les cas de mères porteuses que nous avons interviewées aux États-Unis, ce sont des femmes souvent religieuses, motivées par un sentiment religieux. Ce sont souvent des femmes qui sont mariées à des militaires et qui expliquent leurs gestes comme étant un geste solidaire envers des femmes ou des couples d'homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et enfin, je voudrais simplement relever d'un point de vue juridique maintenant qu'on va donner l'accès aux femmes lesbiennes et aux femmes seules en France, l'accès à la PMA, qui nécessite donc plus cette diagnostic d'infertilité, comme cela a été le cas pour l'AMP, et vous avez raison de le dire, ça a été créé pour cela, eh bien, nous avons un autre paradigme philosophique et juridique qui a été voté par nos représentants et qui sera vraisemblablement traduit dans la réalité française. Donc, Autrement dit, il y a eu quand même un changement dans la question de l'accès à l'AMP en France.
Alors, Jade, avec qui on a préparé cette émission, voulait intervenir justement.
Pour revenir du coup sur la GPA et trouver une GPA qui pourrait être éthique, nous savons du coup qu'en Angleterre se pratique la GPA dite altruiste et c'est une GPA qui du coup n'est pas rémunérée, où la mère porteuse n'est pas rémunérée et donc elle fait don, on va dire, de son corps pour permettre à un couple ou à un père ou à une personne d'avoir un enfant. Que pensez-vous du coup de cette pratique-là? Est-ce qu'elle pourrait être pratiquée en France? Est-ce qu'elle semble envisageable et est-ce qu'elle est éthique?
Je laisse M. Testa répondre.
Pour moi, la GPA altruiste n'existe pas. C'est une histoire anecdotique, mais ce ne sera pas du tout ça, la réalité de la GPA. Parce que la GPA, c'est la location d'utérus. Et l'expression « gestation pour autrui » est là pour brouiller les cartes, parce qu'il y a autrui, altruisme. Les rares exceptions de porteuses bénévoles dont vous avez parlé démontrent le même niveau de dépendance et d'aliénation que celui, par exemple, des Hispanos ou des Afro-Américains qui ont voté Trump. C'est à peu près la même chose. Et le cas du service bénévole qui est rendu par les familiers, parce que ça peut exister, c'est plus acceptable, mais ça semble exceptionnel. Peut-être parce qu'il se ramène plutôt à la simple insémination naturelle ou artificielle de la femme porteuse, qui est une pratique immémoriale qui n'encombre pas la bioéthique. La GPA dont vous parlez est réellement altruiste. Je pense que ce n'est pas vraiment de l'altruisme, c'est simplement de l'aliénation.
Alors, j'aimerais donc répondre par... il est possible de mettre en place un encadrement de la GPA qui n'aliène pas ni n'exploite pas les femmes. Et je suis la première à dire que c'est le cas dans de nombreux pays, comme en Ukraine ou en Inde. Mais nous avons des exemples aux États-Unis, dans 4 États, par exemple, où la femme porteuse n'est pas rémunérée. Tout ce qui est pris en charge, ce sont les frais durant la grossesse, les jours de travail où elle est obligée de s'absenter, les frais d'avocat. Et encore une fois, ces femmes qui vont de elles-mêmes, encore une fois, il ne faut pas, je ne sais pas comment le dire, mais il y a des femmes qui vont d'elles-mêmes pour pouvoir aider autrui en portant leur enfant. Elles ne sont pas contraintes, c'est un choix personnel, c'est une démarche personnelle. Et à partir du moment où l'État encadre cela et vérifie, et c'est le cas dans 4 États aux États-Unis, que les trois parties, l'enfant, le couple et la femme porteuse ainsi que sa famille, sont suivies en amont et après, ce qui est le cas dans ces 4 États, eh bien, je pense que c'est une bonne approche plutôt que de l'interdire et voir des situations où des couples vont le faire quand même et de façon clandestine et de façon dangereuse pour tout le monde.
Alors, il y a des États à ce moment-là qui préfèrent aussi laisser un vide juridique sur la question de la GPA et même de la PMA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jennifer Merchant?
Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le système français où toutes les questions concernant l'accès à la PMA soient considérées comme une question de santé publique. Aux États-Unis, nous le savons bien, là où il y a vide juridique, il y a l'immersion des sociétés privées, des intermédiaires, et puis quand il y a litige, il y a des histoires terribles. J'ai écrit d'ailleurs dans un article, dans une revue de International Journal of Bioethics, un article qui plaide pour une législation nationale concernant l'accès à la PMA aux États-Unis. Ce n'est pas possible parce qu'aux États-Unis, les questions de santé, droit de la famille, chaque État a son propre pouvoir de décider ces lois-là. Donc, ce n'est pas pour demain. Et c'est pour ça que je préfère le système français où nous avons un pouvoir, on va dire, centralisé qui supervise et qui suive ces actes dans la procréation médicalement assistée.
Jacques Testa.
Oui, à propos du bénévolat, je voudrais d'abord rappeler une évidence, c'est qu'il est absolument impossible de démontrer qu'il n'y a pas eu de trafic pour obtenir le service de la grossesse par une femme qui se dit bénévole. Il peut y avoir, et il y a certainement très souvent, des échanges d'argent qui ne sont pas apparents. Donc, on ne peut absolument pas démontrer ça. Alors, on parle sans arrêt d'altruisme et de bénévolat. Franchement, à part quelques femmes dont on pourrait s'intéresser psychologiquement aux motivations, je pense que c'est quelque chose qui est forcément exceptionnel. Vu la servitude que ça demande, une grossesse, on imagine mal qu'on aurait assez de mères porteuses pour tous les couples homosexuels qui voudraient avoir un enfant en France, par exemple, si c'était autorisé. Alors, quant au vide juridique, quand même, il faut en dire un mot, il n'y a pas de vide juridique en France. Hein,
Non, pas en France, je parlais des pays qui…
Voilà. Ben oui, ben il suffit, pour qu'il n'y ait pas de vide juridique, il suffit de rappeler que la biomédecine est réservée à pallier l'infertilité, et c'est pour ça qu'on l'a inventée. Il suffit de définir que la biomédecine a pour objet de remédier à la stérilité, ce qui était le cas en France jusqu'à la nouvelle loi, et on supprime le vide juridique. Aussi, je veux dire quand même que dans une situation d'infertilité, moi je suis logique, je pense que des femmes seules ou en couple féminin pourraient accéder à l'AMP au même type que des couples hétéros. Elle est là l'égalité dont vous parlez. C'est quand il y a infertilité. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin c'est connu, depuis les années 60, les lesbiennes américaines se débrouillent pour trouver du sperme et s'auto-inséminent entre elles.
Mais ça c'est fini maintenant, ça c'est fini maintenant, puisqu'elles font appel à des… Mais
évidemment, parce que c'est plus commode. Et en France, ce sera remboursé par la Sécu, donc c'est encore mieux. Et puis il y aura surtout la garantie médicale sur la qualité du donneur. Alors qu'autrement, comme quand on fait un enfant avec son partenaire, on n'a pas les mêmes contrôles qui vont forcément être appliqués sur des donneurs anonymes. Donc c'est fini, bien sûr, mais ce n'est pas pour ça maintenant c'est mieux. Je ne suis pas d'accord.
D'accord, j'entends, mais demander… D'abord, remettre en cause l'état psychologique, je remonte donc à la GPA, remettre en cause l'état psychologique des femmes, notamment américaines, que j'ai interviewées et qui sont documentées dans de nombreuses publications, remettre en cause leur état psychologique me semble un petit peu fort de café, car les ayant rencontrées moi-même, je ne trouvais pas qu'elles étaient dérangées psychologiquement. Elles n'y étaient ni dépendantes, ni aliénées. Maintenant, pour revenir en France, donc vous demandez seulement aux femmes en couple lesbienne d'avoir accès à l'AMP que s'il y en a une des deux qui soit infertile ou les deux?
Tout dépend de leur système, comment elles veulent… si laquelle veut porter l'enfant, c'est tout. Mais je reviens quand même sur ce que vous considérez comme aliénation. C'est pas ce que je considère moi comme aliénation. Vous me dites qu'elles sont saines d'esprit, mais certainement. Mais si j'ai pris l'exemple des Afro-Américains qui ont voté Trump, ces gens-là sont pas idiots et sont sains d'esprit. Simplement, ils sont dans un système d'aliénation où
Ils ont le droit de voter pour Trump si…
Bien sûr, mais l'aliénation, c'est d'aller contre ses propres intérêts.
Mais ils ne sont pas représentatifs de cette catégorie de personnes. Et deuxièmement, et ça je crois aussi que c'est important à dire, les PMA avec GPA aux États-Unis sont extrêmement faibles. Environ 1% de l'ensemble des actes d'AMP sont avec une femme porteuse. Et nous avons ces chiffres par le CDC. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je trouve qu'en France, il y a beaucoup de hystérie autour du débat sur la GPA et on n'arrive pas à avoir une discussion sereine.
Vous savez, les hommes qui tuent leurs femmes, c'est tout à fait exceptionnel, mais c'est quand même interdit.
Je vais juste avancer un petit peu dans nos questions. Alors, c'est vrai que la GPA, finalement, c'est très isolé, même aux États-Unis, ça n'empêche que le besoin, ou en tout cas la demande, est apparemment en grande augmentation, puisque dans l'extrait de l'effet papillon que nous avons écouté tout à l'heure, il disait que d'autres cliniques sont en construction pour cela. Mais cela dit, nous, en France, on préfère débattre sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, nos deux assemblées sont en désaccord total sur plusieurs points, dont d'ailleurs celui que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est le remboursement par la Sécurité sociale de la PMA. Et parmi ces désaccords, moi, je voulais changer un petit peu de sujet et aller un petit peu plus loin en vous parlant du diagnostic pré-implantatoire que nous appellerons DPI. Il s'agit donc de vérifier si l'embryon n'a pas de pathologie incurable avant de l'implanter dans l'utérus. D'après vous, ce genre de diagnostic pourrait-il devenir la porte ouverte à l'eugénisme, Jacques Testard ?
Bah écoutez, je suis heureux qu'on change de sujet et qu'on arrive dans les vrais problèmes. Moi, ça fait maintenant bientôt 40 ans que je m'oppose à la sélection des bébés. Je voudrais dire quand même que je ne suis pas catholique, hein. Je suis profondément athée, mais je suis humaniste. Et comme vous venez de le dire, l'eugénisme est au bout du chemin de la sélection, c'est bien évident. Alors, il faut rappeler que le DPI, ce diagnostic pré-implantatoire, il a été autorisé en France en 1994. Le but, c'était d'éviter la transmission de pathologies génétiques portées par les parents, des maladies monogéniques graves. Il a été élargi en 2000, donc quelques années après, et dès le début de son utilisation en fait, il a été élargi pour réduire la probabilité de transmission de risques pathologiques. Ce qui change, il ne s'agit pas là de la transmission automatique d'un mauvais gène, mais de la transmission de risques dans des maladies polygéniques, des maladies qui sont liées à plusieurs gènes et aussi à des effets du milieu, par exemple les cancers. Donc on n'est plus du tout dans le fait de ne pas avoir un enfant myopathe ou autre maladie.
Mais ça, ce n'est pas en France, Monsieur Testard.
Pardon ?
Ça, ce n'est pas en France.
Si, c'est en France.
Pour les cancers, non.
Si, c'est en France, madame, depuis l'an 2000. Alors, ce n'est pas écrit dans la loi, mais c'est toléré.
C'est pour vous ça que ça. Parce que moi, je regarde les lois.
Ben écoutez, vous regardez les lois, mais moi, je regarde ce qui se passe et ce que tolère l'agence de biomédecine qui est supposée être le gendarme des pratiques d'AMP. Or, c'est toléré dès que ça a été fait. J'ai été le seul à critiquer ça. Bon, l'agence de biomédecine a trouvé apparemment que c'était normal, puisque c'est une pratique dans les centres de procréation assistée qui font du DPI. Ça ouvre, bon, c'est pour montrer qu'il y a des développements sans arrêt qui ouvrent de nouvelles perspectives de sélection. Et les nouveaux développements, ils sont en discussion pour la prochaine loi, celle qui sera votée en 2021, qu'on ne connaît pas encore exactement, mais on voit quand même les orientations. Et ces nouveaux développements du DPI, c'est à la demande du comité d'éthique lui-même et aussi d'autres autorités d'éthique. Alors, d'abord, ils demandent qu'il y ait ce qu'on appelle le DPI-A, c'est-à-dire un diagnostic génétique sur embryon, non pas pour rechercher une anomalie génétique portée par les parents, mais pour rechercher des anomalies chromosomiques qui ne sont pas portées par les parents.
Ça a été refusé.
C'est un pas supplémentaire. Non, c'est refusé, je ne sais pas comment sera la loi. Si ce n'est pas cette fois-là, ça sera
refusé.
Mais que le comité d'éthique demande ça, ça c'est pas des rigolos, c'est des gens quand même qui sont supposés dire la bioéthique en France, dont eux demandent qu'on recherche les anomalies chromosomiques, ça veut dire qu'il ne s'agit plus d'éviter la transmission parentale d'une pathologie, mais d'éliminer des anomalies qui sont accidentelles et imprévisibles, donc qui sont potentiellement présentes chez tous les embryons qui sont disponibles, c'est-à-dire dans toutes les conceptions. Alors, le danger d'eugénisme, il se précise par l'élargissement éventuel à toute la population d'une espèce de certification de la conformité génétique pour tous les enfants à naître. Et ce risque est d'autant plus grand que la loi en préparation, et là, ça va être, je pense, dans la loi, cette loi encourage les recherches pour la fabrication de gamètes. On n'a pas parlé de ça, hein, c'est-à-dire la fabrication quasi-industrielle de gamètes qui permettrait un DPI très sélectif, beaucoup plus sélectif que le DPI actuel, parce qu'on aurait un nombre potentiellement illimité d'embryons, et non pas une dizaine, donc on aurait multiplication des critères supposés de mortalité. Parce que aussi, ce serait attractif, il n'y aurait pas les servitudes médicales, la FIV se réduirait à une technique de laboratoire. Elle ne partirait pas des gamètes, mais de cellules banales qu'on cultiverait pour en faire des gamètes. Alors, ce serait bien sûr ouvert à tout le monde, puisque la PMA est désormais possible hors de la stérilité. Donc on voit les élargissements. Je voudrais ajouter qu'il y a encore autre chose qui est portée par beaucoup de commissions d'éthique, je ne sais pas ce qui en sera dans la loi, c'est le diagnostic préconceptionnel. C'est-à-dire, on fait un diagnostic chez les géniteurs, chez papa et maman, avant la conception, pour pouvoir leur donner le conseil s'ils peuvent ou s'il vaut mieux éviter de faire un enfant. Ce diagnostic, il a été inventé par la fondation d'Alexis Carrel dans les années 40, puis il a été abandonné il y a quelques décennies. Il fait son retour au moment où les progrès de la génétique lui donnent une caution scientifique. Parce qu'on est capable de diagnostiquer chez toute personne des risques de transmettre des pathologies. Alors, plusieurs instances de bioéthique demandent la légalisation de ce diagnostic préconceptionnel. Et ça se passe au même moment où il y a des programmes de recherche qui réalisent le séquençage du génome sur des milliers d'individus en bonne santé, pour la recherche, dit-on. L'obsession de la communauté génétique, à mon avis, restera un des grands marqueurs de cette période législative, quel que soit le contenu final de la loi.
Nous allons reprendre notre débat, Jennifer Merchant et Jacques Testard, un petit peu plus tard, puisque elle aussi fait débat en ce moment au Parlement, à l'INSERM et dans les foyers. Je veux parler, bien sûr, de la science, dont Guillaume va nous donner des nouvelles.
Si vous êtes resté dans une cave ces 15 derniers jours, en plus du confinement, ça a dû être très dur. Laissez-moi donc vous tenir informé de l'actu scientifique. Les États-Unis ont eu recours à un lanceur privé pour la première fois de leur histoire pour envoyer des astronautes dans l'ISS. Le 16 novembre 2020 à 1h27 du matin, heure de Paris, la capsule Crew Dragon, installée dans une fusée Falcon 9, s'est envolée avec succès et cela met fin à des années de dépendance russe. En effet, les États-Unis envoyaient depuis la fin du programme des navettes spatiales leurs astronautes dans des capsules Soyuz. Cette indépendance retrouvée est donc très stratégique, mais espérons qu'elle ne mette pas à mal le programme spatial russe qui enverra beaucoup moins d'astronautes dans l'espace. Une actu maintenant beaucoup plus triste, Arecibo, le plus grand radiotélescope du monde, ne va bientôt plus écouter le ciel. Pour mieux comprendre, ce radiotélescope est en réalité une énorme coupole au-dessus de laquelle se trouvent des instruments de mesure tenus par des câbles. Les câbles sont en train de rompre et aucune réparation n'est possible. Il faudra donc dire prochainement adieu à ce radiotélescope qui apparaît dans le jeu Just Cause 2 et dans le film James Bond GoldenEye. Sinon, une actu moins scientifique, mais que je vous invite à suivre, c'est le vent des globes, qui a lieu en ce moment. Alors, rien à voir avec les vents et les râteaux que Gaspard s'est pris autour du globe, car c'est une course de bateau en solitaire, sans assistance et sans escale autour du monde. C'est donc l'occasion de voir des paysages uniques depuis des bateaux qui sont seuls au milieu de cette grande étendue d'eau.
All alone, the warden said. wanna get my kick, let it rock. Everybody let it rock. Everybody knows, say a song. Put Danny to the jail, let it rock. 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 Danny to the jail, let it rock.
Elvis Presley sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part.
Et ce soir, nous parlons bioéthique et transhumanisme avec Jennifer Merchant, spécialiste des enjeux sociopolitiques de la bioéthique, et Jacques Testard, directeur de recherche honoraire à l'INSERM. Justement, nous avons évoqué la PMA en début d'émission, mais là nous parlions, en cette fin de première partie, du DPC, le diagnostic préconceptionnel, et Jennifer Merchant voulait répondre là-dessus.
Ben, je voulais revenir à la discussion sur la DPI. Il me semble, Monsieur Testard, que vous avez été parmi les pionniers de la procréation médicalement assistée, et que le fait aujourd'hui en Angleterre, parce qu'en France ça ne va pas passer par la loi, ça ne va pas être autorisé, le fait qu'en Angleterre maintenant on diagnostique les embryons pré-implantatoires, avant de les implanter, pour détecter justement ce que vous avez dit, des anomalies, c'est une démarche pour éviter les fausses couches, c'est une démarche pour éviter les échecs de PMA, c'est une démarche pour éviter la souffrance des couples qui font fausse couche après fausse couche. En fait, c'est une démarche qui améliore la réussite d'un parcours.
Vous avez des éléments scientifiques qui démontrent ce que vous venez de dire?
Ah, bien sûr.
Ah bon, parce que moi qui suis scientifique, je n'en ai pas. Pour moi,
je n'ai donc pas fini. Donc j'ai des éléments. Ce sont des commissions, des auditions parlementaires en Angleterre où les médecins viennent pour dire.
Mais, non, je parle de publications scientifiques avec comité de lecture. Je parle pas de discours devant les politiques.
Mais bien sûr que ça se trouve, Monsieur Testard. Et d'ailleurs, ces documents ont été utilisés par les praticiens de FIV en France qui ont demandé justement qu'il y ait ces analyses de l'anomalie embryonnaire avant implantation. Ils se sont appuyés sur les chiffres et les études anglaises. Donc, et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que il me semble que vous êtes pas contre la PMA puisque vous y avez participé et que quelque part c'est une avancée pour augmenter quelque part les taux de réussite en France qui sont très très bas, vous le savez.
Bon, écoutez, les taux sont très très bas, oui. Ailleurs, ils sont souvent gonflés, vous le savez, vous le savez pas. Mais ce dont on est en train de parler, c'est de faire croire que le diagnostic génétique permettrait d'augmenter la probabilité de naissance. Il n'y a rien qui démontre ça. Il y a tellement de raisons pour un embryon de ne pas se développer en enfant, des raisons qui ne sont pas génétiques ou qui sont tellement complexes que le généticien ne les verra pas, que ce n'est pas en supprimant quelques anomalies qu'on va changer le pourcentage d'enfants normaux à la naissance. On va éviter les grosses pathologies qu'on connaît. Mais il y a plein de pathologies qui forcément vont rester là. Et il ne faut pas croire que parce qu'on va trier les embryons sur le génome, on va augmenter le taux de grossesse. Ça n'est pas vrai. En tout cas, ça n'est pas démontré.
Mais je me permettrai de vous envoyer ces informations.
Si écoutez, envoyez-moi. Par exemple, si on prend un truc courant de la trisomie 21, qui est la maladie la plus fréquente, la maladie génétique, rien n'a démontré que des embryons qui portent une trisomie 21 auraient moins de chances de naître que des embryons qui ne le portent pas. Donc, je sais que c'est des discours que répandent en particulier les gynécologues qui connaissent rien à la génétique, mais ça sert pour argumenter, pour augmenter le nombre d'actes qu'on va faire et la sophistication des actes de PMA, mais tout ça repose sur rien pour le moment.
Mais moi, je vous propose, excusez-moi.
Pardon. Jennifer Merchant, je vous propose de nous les partager et nous les partagerons à notre tour avec plaisir sur le site de radiocampusparis.org. Mais je vous propose de continuer à verser vers le transhumanisme, puisqu'aujourd'hui, le remboursement de la PMA pour toutes les femmes fait débat au Parlement. Est-ce que vous pensez, Jacques Testard, que demain, nous débattrons du remboursement d'opérations visant à augmenter artificiellement l'homme?
Mais évidemment, parce que le raisonnement tordu dont on vient de parler du droit à l'enfant, Pour moi, il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas un objet.
Mais je crois que Jennifer Merchant est d'accord là-dessus.
Bon, sur le droit à l'enfant. C'est pas, on n'a pas parlé du droit à l'enfant.
Mais moi, j'en parle évoqué.
Il n'existe pas, Monsieur Testard. Ce droit à l'enfant, il n'existe pas.
Exactement. Il n'existe pas, mais c'est l'argument des gens qui demandent la GPA. Ils ont droit d'avoir un enfant.
Sans non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Les gens qui sont en faveur de la GPA, que ce soit des couples hétérosexuels dont la femme souffre du syndrome dont on connaît qui empêche qu'elle porte un enfant, ou des hommes homosexuels, c'est simplement de faire comme tout le monde, c'est-à-dire réaliser leur désir d'enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants.
Quatre.
Bien. Ben moi, j'ai désiré un enfant. Je ne pensais pas que c'était un droit, mais j'ai désiré d'avoir mes enfants avec mon compagnon. Nous les avons eus. C'était un désir profondément égoïste. Vous reconnaîtrez. C'est quelque chose que nous voulions. Les couples homosexuels d'hommes et les femmes seuls expriment ce désir, ils n'expriment en aucune manière un droit à l'enfant. Vous le verrez jamais dans aucun texte des associations qui militent autour de ces sujets.
Mais Jennifer Merchant, c'est quand même une idée qu'on entend très souvent dans les médias et à l'Assemblée, le droit à l'enfant.
Alors moi, je quand j'étudie les discours, je constate que c'est un discours qui est instrumentalisé par les porte-paroles qui sont contre l'accès à la GPA, qui sont contre l'accès des femmes à la PMA. Donc, c'est une espèce de chiffon rouge que les opposants agitent et qui n'est mentionné aucunement par les partis en face.
Et le droit à l'enfant normal, c'est la même chose pour vous? Ça n'existe pas?
Alors, Monsieur Testard, je pense, c'est un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois, que lorsque vous pouvez éviter à un couple de donner naissance à un enfant gravement malade, par exemple avec Huntington's disease, la myopathie, la ovocytose, je pense sincèrement que vous serez d'accord pour éviter cette naissance et pour éviter...
Simplement, vous allez me dire comment on fait pour s'arrêter à ce qu'il y ait une maladie grave. Moi, ça fait 35 ans que je pose la question, je n'ai jamais eu la réponse.
C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse non plus.
Ben non, ça veut dire que c'est subjectif et que selon la demande, selon les possibilités techniques...
Non, je pense que selon la demande, je pense que l'État régulateur peut mettre un holà à un moment donné. Je pense que c'est le cas en France. Ce n'est pas le cas dans certaines cliniques aux États-Unis.
Non, mais en France, c'est certainement là où c'est le mieux contrôlé. Malgré tout, je vous ai donné l'exemple en France de l'élargissement du diagnostic génétique à des pathologies qui sont pas transmissibles de façon certaine, puis les demandes actuellement de l'élargir à des pathologies de chromosomes qui n'ont rien à voir avec les parents, qui sont des accidents de la fécondation. Donc, c'est-à-dire de l'élargir à tout le monde. Et il y a là-dessus plein de textes. Il y a quand même, je pense par exemple au député Jean-Yves Le Déo, qui présidait l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Il a fait un projet de loi il y a 3-4 ans qui disait très clairement que tous les embryons produits in vitro devaient être testés pour leur normalité.
Oui, mais ce n'est pas...
Avec l'argument dont on parlait d'augmenter le taux de grossesse.
Monsieur, je suis d'accord avec vous qu'il y a des demandes, mais ça ne va pas passer dans la loi, que je suis de très près, cette fois-ci. Peut-être, vous avez raison, peut-être ça passera dans 5-7 ans, quand il y a une autre révision, mais cette année, ça ne passera pas dans la loi.
Oui, mais alors, est-ce qu'on parle de la loi cette année ou on parle de l'évolution de la bioéthique? Parce que la GPA ne passera pas non plus cette année. Peut-être même pas la prochaine, mais ça finira par passer.
Peut-être.
Justement, nous verrons ça dans les années à venir. Mais moi, je vais justement, projetons-nous dans plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies, Jacques Testard. Quel rôle l'État doit jouer dans le développement du transhumanisme?
Il doit tout simplement s'y opposer. Mais s'y opposer, ça commencerait par favoriser la diversité des vivants, refuser la compétition comme règle de vie en société, aider les handicapés réellement, et rappeler que la fonction de la médecine et de l'éthique est de soulager des malades. Il faudrait relire Knock pour réaliser l'actualité de la fabrique du malade à partir des biens portants, parce que c'est ça finalement qui est en train de se passer. Des gens ne savent pas qu'ils sont malades, mais on va leur dire, avec des diagnostics qui vont prévoir qu'ils ont des risques de pathologie. Évidemment, tout le monde en a. Donc l'eugénisme et le transhumanisme, ça n'est que l'expression moderne de de production économique.
Comment vous définissez, Monsieur Tessard, le transhumanisme et l'eugénisme? Pour moi, c'est différent.
Comment c'est différent vous... parce que effectivement, le transhumanisme ne traite pas que des problèmes de génétique, mais tout ce qui est au ressort de l'ancien eugénisme est aujourd'hui contenu dans le transhumanisme. Mais le transhumanisme a d'autres trucs sur le cerveau, sur un tas de choses qui ne concernent pas l'eugénisme. Effectivement, je suis d'accord là.
Alors, justement, selon la loi française, on va voir jusqu'où on peut aller, peut-être avec cette question, dans la recherche sur l'augmentation de l'humain et sur l'équilibre à trouver entre l'augmentation de l'humain et la médecine, donc le soigner. Selon la loi française, il n'est autorisé de manipuler le génome humain que dans le cadre de recherches scientifiques sur des avancées thérapeutiques et pour guérir des maladies génétiques, donc pour la médecine. Mais pour autant, peut-on faire n'importe quelle recherche sur le génome humain en France, Jacques Testard ?
Dans votre question, il y a deux façons de traiter génétiquement l'humain. Il y a la thérapie génique qui se fait sur une personne malade et il y a la modification du génome des embryons qui sont a priori potentiellement sains. Donc la thérapie génique, n'a pas d'effet héréditaire pour le moment. Elle est pratiquée depuis une vingtaine d'années, mais il faut le dire, avec un succès très très limité. Quant à la recherche sur l'embryon, elle est autorisée, mais les modifications génétiques de l'embryon sont actuellement interdites.
Oui, parce que la France a signé la convention d'Oviedo.
Absolument, mais dans la prochaine loi, il n'est pas évident que ça restera de la même façon. Il y a une demande du Comité national d'éthique de pouvoir modifier les embryons à condition, c'est-à-dire pour la recherche, pour comprendre, à condition de ne pas les transférer dans l'utérus maternel, donc de ne pas transformer en enfant un embryon qu'on aurait manipulé génétiquement. Mais c'est quand même un changement complet de la compréhension de la modification ou de l'acceptation de la modification de l'embryon. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des comités internationaux de spécialistes qui préparent déjà la suite de ces modifications en définissant, vous savez, avec la fameuse technique CRISPR-Cas9, où on pourrait modifier à volonté des embryons, eh bien, les comités internationaux de spécialistes de cette technique préparent la suite en étant déjà à définir les pathologies qui justifieraient la correction génétique des embryons pour faire naître des enfants normaux dès que l'autorisation sera donnée par la société. Non, c'est dramatique parce qu'on voit que l'éthique n'intervient que quand une technologie est déjà au point, comme si cette mise au point ne relevait que de la connaissance, puisque c'est l'argument qui est donné dans tous les textes. C'est-à-dire que l'éthique, elle intervient trop tard, puisqu'il y a toujours des raisons exceptionnelles d'abord de se servir des technologies. Par exemple, il y a le pseudo-débat sur la modification du génome embryonnaire avec CRISPR-Cas9, ben ce débat, il n'a aucun sens puisque les instances d'éthique internationales en sont à définir les applications de la technique avant même qu'elle soit validée par les recherches en cours. Alors, pourquoi est-ce qu'on mettrait au point une technique que l'on n'envisage pas d'utiliser? Et pourquoi différer la décision d'autoriser ou d'interdire jusqu'à rendre l'éventuel interdit inapplicable parce que le possible sera démontré et cette réalité fera pression pour que ce soit autorisé dans des cas très particuliers. Au début, c'est toujours comme ça, mais sera autorisé.
Une réponse rapide, s'il vous plaît, Jennifer.
Oui, j'aimerais quand même répondre. J'ai été co-auteur du rapport de la National Academy of Sciences en 2017, justement suite au premier congrès international sur la modification du génome humain et la question de CRISPR-Cas9. Et je connais les autres rapports dont vous faites référence, et il n'est nullement question d'établir une liste de pathologies. Il est question de dire, dans l'ensemble de ces rapports, et il y en a eu pléthore, il s'agit de dire que lorsque l'efficacité et la safety and security de ces recherches s'avèrent absolument confirmées, qu'il y a plus de bénéfices risques, ce sont des termes utilisés par les scientifiques eux-mêmes, on peut envisager, après une discussion approfondie avec le public, ce qu'on appelle en anglais public engagement, on peut envisager avec et pour des maladies, des pathologies graves, de procéder à des essais cliniques phase 1, 2, 3. Il n'est pas du tout question de open the way, de faire ouvrir un boulevard par ces instances éthiques à l'application de la modification du génome humain. Je dirais aussi qu'en France, parce qu'il y a la convention Oviedo, les chercheurs ne peuvent pas et ne pourront pas, parce que vu comment la loi va évoluer, elle ne pourra pas autoriser la recherche sur la modification des embryons et des gamètes à cause de la convention Oviedo. Donc, nous ne risquons pas d'avoir ce genre de recherche en France.
Ah, écoutez, là, je ne suis pas du tout d'accord. On sait très bien qu'actuellement, les chercheurs sont en train d'essayer de détourner la convention d'Oviedo pour dire que du moment qu'on ne fait pas un enfant, on est en dehors de la convention.
Non, ils sont en train de le dire.
Ils sont en train de le dire, ben oui, mais il ne faut pas le nier. De même, vous affirmez que les commissions internationales ne sont pas en train d'établir à qui s'appliquerait, à quel trouble, à quel... anomalie s'appliquerait la technique CRISPR-Cas9. Et
pour l'instant, ils pensent que...
Il y a eu un rapport il y a 2 mois qui disait que ce serait pour des maladies monogéniques, oui, particulièrement. Bon, c'est déjà avancé.
C'est le dernier rapport de la NAS. Oui. Et vous avez raison, ils évoquent, mais c'est la première fois.
Mais oui, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière.
Alors, il faut... Alors, une question pour vous, monsieur, parce que vous êtes scientifique et moi, je suis une petite... chercheuse en sciences humaines. En Belgique, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'ils ont, malgré l'Église catholique, ou plutôt avec l'accord de l'Église catholique, ils ont réussi à créer un statut spécial pour les embryons sur lequel on peut faire des recherches, y compris de modification du génome.
Ben vous voyez que c'est possible malgré Oviedo.
Non, parce que la Belgique n'a pas signé Oviedo. Que pensez-vous de ça? Ne pensez-vous pas que c'est un apport à la science de pouvoir travailler sur ce qu'ils appellent les Belges des artefacts, c'est-à-dire sur des embryons qui ne se développeront pas au-delà de 14 jours? Ne pensez-vous pas que c'est un apport à la science que ces scientifiques puissent le faire en Belgique et pas en France?
Écoutez, ça fait longtemps. Vous savez qu'en Angleterre, qui est quand même le pays le mieux placé pour les recherches sur l'embryon et en reproduction en général, c'est eux qui ont inventé la fécondation in vitro quand même. Depuis 1990, ça fait 30 ans, les Anglais ont le droit de faire des recherches sur les embryons. Or, ces recherches n'ont jamais mené au moindre progrès technique. Ça n'a jamais augmenté le taux de grossesse, ça n'a jamais permis de faire des enfants normaux. Donc, il faut arrêter ces illusions sur le fait que les recherches vont forcément amener du progrès technique. Ce n'est pas vrai.
Donc, en fait, pas du progrès humain. Donc, la recherche fondamentale, parce que c'est sur des embryons, il ne faut pas l'autoriser.
Non, madame, la recherche sérieuse, elle se fait sur des animaux, sur des souris. Parce que quand vous faites une recherche sur des embryons qui sont tous différents, vous ne démontrerez jamais rien. Si vous faites des recherches sur des souris qui sont des animaux quasiment clonés, ont tous le même génome, vous en prenez 50, vous faites telle manipulation et vous avez un résultat qui a du sens. Simplement, aujourd'hui, on trouve beaucoup plus gratifiant de faire la recherche directement sur l'humain, et c'est vrai que c'est plus gratifiant et ça coûte moins cher.
Mais vous savez qu'on ne peut pas en déduire sur l'humain ce qu'on a trouvé chez les animaux.
La plupart des choses, si, on donne toujours un ou deux exemples, mais la plupart des choses, si, quand même.
Merci à tous les deux. Je vous propose, pour terminer cet entretien qui est passionnant, d'ouvrir une nouvelle perspective, puisque la problématique de demain, c'est bien l'écologie. Je pense que là-dessus, vous êtes d'accord. Et d'après vous, je commencerai par Jennifer Merchant, est-ce que le transhumanisme pourrait nous aider à régler ce problème d'environnement ?
Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas versée dans les attentes, dans les discours... des transhumanistes. Je pense au plus profond de moi que c'est une discipline de philosophique intéressante. Je pense que les problèmes d'écologie sont actuels, réels, présents, et qu'il ne faut pas attendre que les transhumanistes, quels qu'ils soient, arrivent avec des solutions aux problèmes environnementaux. L'urgence est là. Je ne pense pas que les transhumanistes sont une source de solutions. Nous avons d'autres sources beaucoup plus intéressantes sur lesquelles les politiques peuvent s'appuyer pour résoudre les problèmes de l'environnement.
Jacques Testard.
Oui, moi j'évoquerai un transhumaniste américain qui a dit qu'une solution justement pour l'environnement, ce serait de faire des hommes plus petits. Parce que quand on est plus petit, on pollue moins. Vous voyez, ça montre le niveau intellectuel de ces gens-là. Donc, le transhumanisme, en fait, il suppose la mort de l'écologie comme de la bioéthique, parce qu'il fait croire que le surhomme, saura se rendre maître et possesseur de la nature, un vieux mythe, et loin des infantilismes du transhumanisme, infantilisme de la puissance infinie de l'homme et de l'illusionnisme, de la maîtrise du vivant. On ne maîtrise pas le vivant, on peut le modifier, mais on ne maîtrise pas ce qu'on modifie. L'intelligence artificielle qui n'est pas de l'intelligence. Nous sommes, en réalité, nous sommes de la nature. Et notre futur, il ne peut passer que par l'effort de civilisation pour que les humains de toutes sortes, de toutes couleurs, de tous les genres, de tous les handicaps, vivent ensemble en harmonie, entre eux et avec l'environnement. Ce n'est pas le transhumanisme qui va nous sauver, c'est sûr.
Merci à tous les deux pour ce débat, cet échange que, personnellement, j'ai trouvé très, très intéressant. Jennifer Merchant, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'Université Panthéon, à l'Université Paris 2 Panthéon Assas, spécialiste des enjeux sociopolitiques de la bioéthique. D'ailleurs, vous faites aussi partie de l'association ARIGE, si je ne me trompe pas.
Absolument, et j'invite M. Testard de nous rejoindre.
Bon, vous savez bien qu'on n'y accepterait pas, on prendrait pas.
Certainement, je peux vous assurer.
Et Jacques Testard, vous donc, vous êtes toujours directeur de recherche honoraire à l'INSERM et auteur de l'ouvrage « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes » aux éditions du Seuil. Je conseille aux auditeurs qui souhaitent creuser le sujet. Maintenant, c'est l'heure pour nous de la chronique de vulgarisation. Et aujourd'hui, Jade s'est rendu compte d'un problème qui touche de nombreux Français, l'impossibilité d'accéder au réseau mobile.
Eh oui, Gaspard, j'organisais mes vacances avec des amis suédois, et comme tout touriste qui se respecte, je souhaite aller en Laponie. Bien sûr, je veux partager ce voyage avec mon équipe de radio préférée et leur envoyer mes meilleurs selfies avec des rennes. Mais là, qu'est-ce que j'apprends ? La Laponie est une zone blanche. Et je ne parle pas que du paysage.
Eh oui, c'est logique ! Perdu au fin fond de la Laponie, tu seras trop loin des antennes relais et ton téléphone ne pourra pas capter le réseau.
C'est bien le problème. Lorsqu'on appelle, lorsqu'on utilise Internet depuis son téléphone ou lorsqu'on envoie des SMS, la transmission des données se fait par les ondes électromagnétiques. Or, ces ondes sont diffusées dans l'air par des antennes relais. Comme son nom l'indique, une antenne relais est une antenne placée en hauteur qui va permettre la diffusion de ces ondes. Pour nous, Français, la plus connue est celle de la Tour Eiffel. Lorsqu'on passe un appel, notre téléphone se comporte comme un émetteur radio. Vous vous rappelez de la chronique sur la radio en février dernier ? En gros, le téléphone va transformer notre voix en sorte de code composé de 1 et de 0 qu'il va envoyer dans l'air grâce à ces fameuses ondes électromagnétiques. L'antenne relais va réceptionner ces ondes et les transformer en signal électrique qui arrivera à une autre antenne relais grâce au câble. Dans le rayon d'action de cette antenne relais de destination se trouvera mon ami que je cherche à joindre. L'antenne enverra alors les ondes électromagnétiques contenant ma voix dans l'air et elles vont être réceptionnées par le téléphone de mon ami. Il en va exactement de même avec le transfert des données. Bien sûr, nous bougeons souvent et nous ne captons pas toujours le même signal, de la même antenne relais. Lorsqu'on sort du champ d'action d'une antenne relais, on entre, normalement, dans le champ d'action d'une autre antenne relais. Tant que tu te trouves dans le rayon d'une antenne relais, ton téléphone peut capter les ondes électromagnétiques. Mais si tu n'es plus dans le champ, il te sera impossible de recevoir les données. Et oui, Jamy, les ondes ne se propagent pas à l'infini. Il faut savoir que le signal envoyé par l'antenne se propage sur quelques centaines de mètres, voire kilomètres, et qu'il peut être perturbé par le relief du terrain, par le nombre d'utilisateurs dans le rayon, etc.
C'est pourquoi Jade, en Laponie ou à la campagne, même combat, il est difficile de capter le réseau et ses fameuses ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques sont les mêmes ondes que celles utilisées dans la radiodiffusion, par exemple.
Tout à fait. Nos téléphones reçoivent les informations grâce à la transmission hertzienne. Ici, tout va se passer dans les ondes, et c'est bien pratique. Étant donné que nous sommes en mouvement, nous ne pouvons pas être reliés à des câbles continuellement. Une onde électromagnétique est donc une onde, bien vu Sherlock, composée d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Elle transporte le message à transmettre, le plus souvent, votre voix. Les ondes électromagnétiques sont classées en fonction de leur fréquence. Les bandes de fréquence que l'on utilise sont en général comprises entre 9 kHz et 3000 GHz. Il faut savoir que plus la bande de fréquence sera basse, plus elle pourra pénétrer à l'intérieur des bâtiments. Mais le débit de données sera moins élevé. Il faut donc choisir une fréquence avec un bon ratio.
Et justement, on utilise différentes bandes de fréquence en fonction de la génération de réseaux utilisés.
C'est cela, Gaspard. Même si ce n'est pas la seule différence entre les réseaux. Ces différents réseaux mobiles n'utilisent pas les mêmes bandes de fréquence parce qu'elles ne sont pas destinées à la même utilisation. L'A2G, donc la deuxième génération, est la plus marquante parce que grâce à elle, on passe de l'analogique vers le numérique. Il est désormais possible de transmettre la voix et des données numériques en faible volume, notamment, roulement de tambour, des SMS, Short Message Service. Je suis désolée pour mon accent anglais. Elle se base sur le standard GSM, Global System for Mobile Communications. Vient ensuite la 3G, qui utilise la norme UMTS, Universal Mobile Telecommunications System. Avec ce débit, on peut accéder aux usages multimédia, comme le MMS, Multimédia Message Service, ou télécharger un peu de contenu Internet. Enfin, la plupart des utilisateurs sont connectés au réseau 4G. Ce dernier utilise le standard LTE, Long Term Evolution, et permet le téléchargement de beaucoup plus de données que ses prédécesseurs. Plus pratique pour regarder YouTube dans les transports.
Et le progrès ne s'arrête pas là, car nous attendons la 5G en 2021. Merci Jade, les réseaux mobiles, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans les mois à venir. Mais l'atome de savoir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, et merci à Jade pour son aide sur la préparation de l'interview. Sachez que vous pouvez nous écouter et réécouter sur Spotify et radiocampusparis.org. Pour nous parler, ça se passe sur Twitter, Instagram et même par courriel à l'atomedesavoir@radiocampusparis.org. Johanna, notre attachée de production, vous répondra avec plaisir. On se retrouve le 28 janvier 2021. Passez de belles fêtes de fin d'année, mais surtout, restez curieux et portez-vous bien.